Bonjour, vous écoutez le podcast de la Commission Agriculture et Société, co-animé par Produits en Bretagne et Agriculteurs de Bretagne.
Nous sommes Baptiste et Mathieu, et dans chaque épisode, sous la forme d'une interview, nous traitons des sujets agricoles et alimentaires.
Pour ce premier épisode consacré à la question énergétique, nous sommes allés du côté de Rennes, où nous avons échangé avec Christophe Rousse, un passionné de la tomate.
Bonjour Christophe, merci de nous accueillir dans votre serre. Je vais poser la première question. Christophe Rousse, qui êtes-vous ?
Donc moi, je suis producteur de tomates sur la commune de Novoitou depuis près de 25 ans. Moi, j'ai repris une exploitation qui était déjà existante, qui a été créée dans les années 70. Ici, j'ai 3,5 hectares de serre, alors très diversifiées, avec des tomates grappes, des tomates cerises, des rouges de toutes les couleurs. Et je suis également président de la coopérative Solarenne, qui regroupe quasiment l'ensemble des maraîchers d'Ille-et-Vilaine en production de tomates.
Merci Christophe. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous rencontrer pour parler de la situation énergétique en Bretagne. À date, quelle est-elle ?
Alors, la situation énergétique sur les serres est un peu compliquée, hein, à cause de la flambée du gaz, comme beaucoup de secteurs. Nous particulièrement, puisque voilà, on va dire 80% des serres en France et en Bretagne sont chauffées à partir du gaz naturel. Alors après, il y a des petites variantes selon les exploitations. Alors souvent, les plus petites exploitations sont chauffées tout simplement avec une chaudière, hein, comme une maison, on va dire. Et donc là, vu la flambée du gaz que l'on a eue et qu'on a encore cet hiver, même s'il y a des prix qui se détendent un petit peu, donc les producteurs ont fait le choix de ne pas mettre en culture du tout cet hiver, hein, c'est-à-dire les jeunes plants, parce qu'on ne produit quand même pas très peu de tomates, on va dire, en production d'hiver en Bretagne à cause du climat. Donc c'est des sites où les producteurs vont planter au mois de mars, on aura des tomates, on va dire, de saison, sans chauffage, donc c'est un peu compliqué, parce qu'il faut quand même rembourser les serres, il faut employer la main-d'œuvre, les saisonniers, et donc ça c'est, on va dire, une plus petite partie. Et l'autre grande partie des producteurs, alors on va dire la majorité des producteurs en Bretagne, sont aussi au gaz naturel, mais se chauffent grâce à la cogénération. Alors c'est quoi la cogénération ? Parce que on décrit souvent le chauffage des serres comme très énergivore, alors qu'on récupère presque une énergie fatale. Hein, et c'est 80% des situations quand même en Bretagne, il faut le signaler, et les autres sont complétées avec de la biomasse ou des énergies fatales. Alors la cogénération, c'est assez simple. Hein, quand vous avez une société à côté de vos serres, c'est une société qui produit de la chaleur avec un groupe électrogène, tout simplement. Hein, et au lieu de tourner au fioul, tourne au gaz naturel. Et derrière ce groupe électrogène, qui a un moteur à piston classique, comme un moteur de voiture, il y a un alternateur où on récupère l'électricité et on la revend à EDF. Donc on a un contrat avec EDF. Hein, voilà, c'est une société à part, particulière, à l'extérieur des serres, qui est très proche des serres. Et l'avantage, donc, on fait la même chose que fait EDF, hein, sauf que c'est décentralisé sur plein de petits points. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'extension de réseau. C'est des petits blocs qui font, on voit bien, la taille d'une maison d'habitation, hein, couverts. Et le gros avantage que l'on a, nous, par rapport à des sites comme EDF ou d'autres, nous, on a la solution, c'est qu'on utilise la chaleur et on récupère gratuitement la chaleur de ces groupes électrogènes. C'est-à-dire qu'on récupère la chaleur, comme on le ferait sur une voiture, sur le pot d'échappement. C'est ce qu'on appelle la haute température. Et ce qu'on appelle sur le moteur classique avec le radiateur qu'on a le devant, c'est tout simplement la basse température. Et justement, avec cette énergie qui est perdue, hein, qui est une énergie fatale, et, ben, au lieu de l'envoyer dans les airs, on va dire, aux petits oiseaux, c'est le cas de le dire, et ben, on la récupère et on chauffe nos serres grâce à cette énergie fatale qui est récupérée sur les moteurs, quoi. Et le gros avantage, c'est qu'en Bretagne, on manque quand même d'électricité, il faut qu'on oublie de le dire. On est très dépendant, on frôle le blackout énergétique ou la coupure électrique un peu tous les ans. Et justement, nous, les puissances, on a à peu près 400 hectares de serres en Bretagne. Et ces 400 hectares de serres nous permettent justement d'avoir la puissance quasiment d'un demi-réacteur nucléaire. Et je pense que s'il n'y avait pas les cogénérations et ces contrats avec EDF aujourd'hui en Bretagne, je pense qu'on serait en pénurie et on risquerait d'avoir une coupure électrique. La preuve, on nous a demandé l'année dernière, alors qu'on était hors contrat, parce que c'est des contrats de 5 mois d'hiver, parce que l'été on a assez de chaleur, assez de, d'électricité plutôt en Bretagne. On nous a demandé, même on était en période d'été, le 4 avril dernier, si vous pouvez démarrer, ça serait bien pour éviter la coupure, quoi.
On voit que la situation est tendue. Pour vous, concrètement, sur la serre, ça signifie quoi ? Quelles sont les conséquences pour les productions, pour les salariés, en termes économiques ?
Alors nous, on a toujours été très dépendants de l'énergie. Donc l'idée quand même des maraîchers, c'est quand même le bon sens paysan qui nous dit l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le kilowatt le moins cher, c'est il faut l'économiser. Donc on avait quand même des outils qui sont particulièrement adaptés. Vous voyez, toutes les serres sont équipées d'écrans thermiques que l'on déploie la nuit, voire un écran, voire deux écrans. L'avantage de la serre, c'est qu'avec la luminosité, ce qu'on appelle l'effet serre, donc on n'a pas besoin tellement de chauffage dans la journée. Il suffit d'un peu de soleil et vous montez tout de suite à 25-30 degrés. Il suffit de laisser les fenêtres un peu plus fermées. Donc on a déjà régulé un petit peu avec ça. On a des ordinateurs très performants qui calculent au dixième. On a des ballons de stockage pour vraiment optimiser cette consommation. Pour consommer déjà, la première idée, c'est de consommer le moins possible. Et la deuxième, aujourd'hui, il y a des pistes pour l'avenir. Il y a d'autres énergies. Je pense que le gaz, comme beaucoup d'énergie, c'est des systèmes transitoires. Je pense qu'il y a des multi-énergies. Je pense qu'il y a pas. C'est le mix énergétique. Et nous aussi, on regarde. Il y a des serres qui sont chauffées avec de l'énergie fatale, de la biomasse. Et je pense qu'on est en train de regarder sur les énergies de demain, avec de la géothermie, avec des forages à forte profondeur, la pyrogasification. On regarde aussi, et peut-être qu'on pense que l'énergie dans 10 ans, ça sera peut-être l'hydrogène vert, quoi.
Une question sur les délestages. C'est vrai que c'était un scénario qui était envisagé en fin d'année dernière par le gouvernement pour justement, en cas de blackout, comme vous l'avez dit, pouvoir trouver une solution transitoire. Là, on voit que les températures peuvent redescendre à nouveau pour ce début de printemps. Comment vous l'anticipez ? Est-ce que des scénarios sont déjà sur la table pour des coopératives comme Solaren ou tout simplement à l'échelle des maraîchers ?
Alors, le délestage électrique, pour nous, était plus simple à gérer. C'est-à-dire que l'on soit à la coopérative ou dans les exploitations, sachant que les délestages électriques devaient durer au maximum 2 jours, on a tous des groupes électrogènes. Avant le début de saison, avant l'hiver, on a fait des grosses revisions sur des groupes électrogènes pour vraiment qu'ils soient opérationnels. Au cas où on avait une coupure électrique, ça ne nous inquiétait pas trop. Alors sur la situation en gaz, on est un peu rassuré parce qu'on a eu peur du délestage un petit peu à l'entrée de l'hiver. Donc on voit qu'aujourd'hui les stocks sont pleins, donc ça va un peu mieux. Je pense que l'hiver va bien se passer, on ne sera pas rationné sur les consommations de gaz parce qu'on avait quand même transmis à la préfecture des plans avec des secteurs qui étaient prioritaires. Et donc l'agriculture n'était pas nommée explicitement prioritaire. Alors nous, l'inconvénient dans les serres, c'est que si vous coupez une journée le gaz, la culture gèle et vous perdez une année de production. On n'est pas comme sur un site industriel où vous coupez une journée, vous perdez forcément une journée de production. Et encore que c'est peut-être un peu plus compliqué selon les secteurs, mais nous, on perd une année de production. La culture est gelée, faut tout remettre en place, donc c'est très compliqué. On est un peu rassuré sur le délestage, les stocks sont pleins.
Christophe, quelles sont les pistes de travail pour vous adapter au changement climatique ? On a beaucoup parlé du froid, mais on peut aussi parler de la chaleur, on peut aussi parler du manque d'eau. Comment vous anticipez cette situation ?
Alors ça, on l'a déjà anticipé depuis de nombreuses années avec les nouvelles générations de serres, parce que les problématiques, c'était les problématiques aussi des conditions de travail et du climat, avec des températures qui pouvaient être chaudes l'hiver, et puis l'eau, c'est évidemment les nerfs de la guerre. Alors comment on l'a résolu ? Déjà, les problèmes de chaleur, les serres aujourd'hui, et je connais très bien la situation, moi quand j'ai démarré ma carrière il y a 25 ans, les serres devaient faire à peu près 2,50 m de hauteur, et on avait des températures très, très, très élevées l'été, parce qu'on avait des températures 4-5 degrés supérieures aux températures extérieures. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse avec des serres, comme vous le voyez dans cette serre, à plus de 7 mètres de hauteur. On a des températures, on a déjà des écrans qu'on peut déployer, on blanchit les carreaux. Donc ça, c'est déjà les premiers points que l'on fait. Et quand même, la plante transpire énormément. Donc en général, on a des températures qui sont, alors ça surprend beaucoup de personnes, mais qui sont largement inférieures aux températures extérieures. On a eu une canicule sur Rennes cet été avec des journées à 40 degrés et on n'a jamais dépassé 33 degrés dans les rangs de tomates, quoi. Donc les gens sont assez surpris. Voilà. C'est-à-dire que c'est la génération de serres qui a changé tout simplement avec des hauteurs de serres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette hauteur de serre permet d'avoir des conditions de travail relativement plus faciles parce que les gens travaillent toujours à la bonne hauteur, soit debout, ils ne sont jamais courbés. Et on peut mécaniser dû à cette hauteur où le port de charge n'excède pas 500-600 grammes, le poids d'une grappe de tomates. Ça, déjà, les conditions ont changé grâce à ce modèle. Et après, nous, on a l'avantage aussi pour l'eau, c'est d'être quasiment autonome en eau parce qu'on récupère, on a tous des bassins de rétention. Et on récupère tous nos eaux de toiture, comme le particulier récupère son eau de toiture sur sa maison pour arroser son jardin. Donc nous, on fait la même chose, mais à plus grande échelle. Et ça fonctionne, on assure 90% de nos besoins comme ça, parce qu'on est en système hors sol fermé. Donc l'avantage, c'est qu'on ne perd pas une goutte d'eau ou d'engrais. C'est-à-dire que la plante, ce qu'elle ne veut pas consommer, on le récupère à le bout et on le réinjecte. Donc voilà. Donc la problématique de l'eau, on est quasiment en circuit autonome, quoi.
Christophe, un mot pour conclure ?
Alors, pour conclure en quelques mots, donc, je pense que la situation énergétique se clarifie un petit peu. On a toujours trouvé des solutions. Les modèles des serres existent depuis les années 60. Et on a toujours eu des passages difficiles. La crise énergétique de 73 était encore plus difficile, je pense, qu'aujourd'hui. On sait rebondir, on a des solutions techniques. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent encore manger français. Il y a une tomate, il n'y a plus malheureusement qu'une tomate sur deux qui est française, mais on va lutter pour tenir et peut-être même prendre des parts de marché. Et je pense qu'il y a encore de l'avenir de notre beau métier.
Merci Christophe. Ceci conclut ce podcast dédié à la gestion de l'énergie en maraîchage. À bientôt pour un prochain podcast de la commission Agriculture et Société, co-animé par Produits en Bretagne et Agriculteurs de Bretagne.